été accueilli par un couple extrêmement généreux. Ma chère sœur m'a supporté pendant un jour et demi. Depuis, elle intercède pour ma femme. Elle se dit, mais comment fait-elle ? As-tu dit oui en plus de ça ? C'est toujours une joie d'annoncer l'Évangile, une joie de rencontrer le peuple de Dieu où qu'il se trouve. C'est une joie pour moi de voir les amis Rietveld qui sont ici, Hans, toute la famille, pas toute la famille, il en manque quatre, hein, un petit bout de la famille. Hein. Ah, ils ont été de longues années dans l'église à Mulhouse et ils ont été une grande bénédiction. Et je sais qu'ils le sont ici aussi. D'ailleurs, y a-t-il des internautes ici qui nous suivent parfois, levez voir la main. Ah oui, vous êtes nombreux, oui. Soyez en tout cas les bienvenus et j'ai aussi toujours de la joie à mettre des visages sur ceux qui nous suivent. Par ailleurs, si vous êtes dans la région et que vous êtes internaute mais vous n'avez pas d'église ici, il y en a une très bonne. Ça ne vous empêche pas de nous suivre en replay. Mais je vous assure que je connais Christophe, c'est un homme sérieux, un homme qui aime la parole de Dieu, un excellent enseignant, et il saura vous mener plus loin dans la foi. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas d'assemblée, si vous n'êtes pas trop loin, eh bien, à vous joindre à cette église. Nous avons de beaux témoignages qui nous viennent de par le net. Il n'y a pas longtemps de cela, une femme musulmane qui découvre les cultes en direct. Alors évidemment, pour elle, c'était réellement une découverte. Puis elle a commencé à regarder en cachette, puisqu'elle craignait quand même son mari, elle craignait les réactions de la famille. Et puis elle nous raconte comment elle a, culte après culte, cheminé jusqu'à se tourner vers Jésus, à lui donner son cœur et finalement à annoncer et avouer sa foi à son mari et à rejoindre une église. Et aujourd'hui, elle est dans une église locale et elle aime le Seigneur de tout son cœur. J'ai aussi le témoignage de cette jeune fille de 20 ans qui... entre guillemets, on avait un peu assez de sa famille. Elle était un peu... vous savez, il y a un âge où les jeunes gens sont contents de quitter les parents. Mais avec le temps, ils sont contents de les retrouver. Je me souviens de ma fille qui me disait « J'en ai marre de cette baraque », elle me le disait comme ça. « Le bruit, tout ça, j'en ai marre, je veux voir autre chose ». Et elle est partie en Irlande du Nord, à Londonderry. Au bout de 3 mois, elle m'écrit « Papa, s'il te plaît, tu peux m'envoyer des cassettes avec le bruit de la maison, s'il te plaît ?» Vous voyez comme quoi... Et cette jeune fille de 20 ans était donc partie comme fille au pair en Angleterre et elle s'est dit « Là, je vais pouvoir faire un peu ce que je veux ». Mais malheureusement, elle a fini comme fille au pair dans une famille bourgeoise qui était en campagne. Donc elle s'est retrouvée coincée avec des gamins et dans une maison isolée. Et puis elle écrit la chose suivante, elle disait « Je me souvenais que ma mère regardait un pasteur qui la faisait rire. Et comme je m'ennuyais, je me suis dit « Tiens, je vais voir si je le retrouve ». Et alors elle a cherché, elle a surfé et puis elle l'a retrouvé. Et elle dit « Mais ce soir-là, il ne m'a pas fait rire, il m'a fait pleurer et j'ai donné ma vie à Jésus ». Mes amis, le net est un merveilleux moyen pour annoncer l'Évangile, mais ce n'est pas le moyen de rester chez soi pour suivre des cultes avec un croissant au lit. Je me souviendrai toujours de cet homme qui m'écrit, me dit « C'est la première fois que je suis une messe en fumant le cigare et en buvant ma bière. » Lui, il n'avait pas encore tout compris, mais il était en route. Ce sont ce genre de personnes que je désire voir venir au Seigneur. Et notre but, ce n'est pas d'augmenter notre auditoire sur le net. Notre but, c'est de voir des gens venir, être touchés et ensuite rejoindre le corps de Christ. Puisque finalement, ce qui est important, c'est que vous grandissiez dans la communion fraternelle, les uns avec les autres. Et c'est là que se forme le caractère du disciple. Quand vous êtes seul à la maison, vous êtes toujours le meilleur des chrétiens. C'est comme quand je suis seul devant ma glace, je suis toujours le plus beau. Quand Christophe se met à côté de moi, ça se complique. Lorsque vous êtes confronté aux autres, c'est là que vous pouvez mesurer où vous en êtes réellement. Ce matin, j'ai vraiment à cœur un thème que j'avais partagé un jour chez nous, puisque je ne prêche jamais ailleurs ce que je n'ai pas d'abord prêché chez nous. Je ne me permettrai pas de dire aux autres ce que je ne dis pas à notre propre assemblée. Mais j'aimerais vous parler de ce thème, la détresse qui sauve. Et en soi, il y a déjà un paradoxe, rien que dans le thème, comment la détresse peut-elle sauver ? La détresse, en général, est source de tristesse, source d'angoisse, et chacun d'entre nous va finalement tout faire pour éviter d'être dans la détresse, quelle que soit sa forme, qu'elle soit physique, qu'elle soit dans les relations, qu'elle soit financière. Chacun fuit la détresse, parce que la détresse, finalement, eh bien, crée de la souffrance. Cependant, ce matin, vous allez voir avec moi que Dieu peut utiliser la détresse pour nous faire progresser, pour nous faire changer, pour entrer dans une relation beaucoup plus profonde avec lui. Et j'aimerais, pendant quelques instants, vous entraîner là au bord du lac d'où Jésus vient de débarquer et où se trouve un homme qui vient le supplier de l'aider. Jésus revient de Gadara où il a libéré un homme possédé de beaucoup, d'une légion, nous est-il dit. Donc, ça faisait énormément de démons. On peut dire qu'il avait un ticket de groupe. Et cet homme a été libéré. Et là, Jésus arrive. Et sur le bord du rivage se trouve cet homme que nous trouvons dans l'Évangile selon Saint Marc au chapitre 5. Je vous invite à lire avec moi le texte. Marc, chapitre 5. Jésus, dans la barque, au verset 21, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa à cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains. » afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Au verset 35, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et qui poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talita kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Elles furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Jusque-là, la parole de Dieu, prions ensemble. Père, nous te bénissons pour ta parole parce qu'elle est vérité et vie. Nous te remercions parce que tu nous enseignes au travers de ta parole. Et je prie ce matin que ton esprit vienne et rende cette parole vivante dans le cœur de chacun d'entre nous. Que cette parole ne retourne pas à toi sans effet. Seigneur, Ésaïe nous rappelle que la neige et la pluie descendent des cieux, mais n'y retournent pas sans avoir arrosé les plantes, fait germer les semences, donnant du pain à celui qui a faim. Ainsi en est-il de ta parole qui sort de ta bouche et ne revient pas à toi sans effet, et je le crois ce matin. Elle accomplira les desseins auquel tu l'appelles dans nos vies. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, dès maintenant et à jamais. Amen. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus. Jaïrus était, dit la Bible, le chef de la synagogue. En d'autres mots, il était responsable de toute l'administration de la synagogue, mais pas seulement. Il était responsable aussi des intervenants. C'est lui qui pouvait choisir les intervenants de la synagogue et il était appelé à examiner ce qu'ils allaient dire. Il avait aussi comme fonction de veiller à ce que le rituel soit respecté, le rituel ancestral soit respecté. C'était donc un notable. Jaïrus était connu. Jaïrus avait une position enviable. Il était en contact avec, bien sûr, les chefs religieux que pouvaient être les pharisiens. Mais il était aussi en contact avec le monde politique d'alors. Et c'était un personnage en vue. Et lorsque j'ai lu ce texte, je me suis posé une question. Une question très simple que n'importe qui d'entre vous certainement a pu se poser en lisant le texte. La question est la suivante. Au vu de la position sociale de Jaïrus, au vu de sa réputation, serait-il venu vers Jésus, personnage controversé, s'il n'y avait pas eu une épreuve comme celle qui le touchait? Aurait-il pris le risque de mettre, entre guillemets, sa carrière en danger en fréquentant celui qui, pour les religieux, n'était pas fréquentable, mais pire encore, en se jetant à ses pieds? La détresse, mes amis, va changer votre vision de la vie et vos priorités. Notez-le-vous bien, la détresse va changer votre manière de voir les choses. Au moment où cet homme est dans la détresse, il ne calcule plus. Ce qui avait pu le retenir auparavant, le regard des autres, sa position sociale, ses revenus de fait, va passer au second plan. Puisqu'il nous est dit dans l'Écriture qu'il y eut d'autres chefs, des pharisiens, qui crurent et qui pourtant ne suivirent pas Jésus. Laissez-moi simplement citer Jean 12, 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Bien-aimés, la détresse peut mettre en évidence nos fausses priorités. La détresse peut mettre en évidence ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et voilà que soudain, pour ce chef de synagogue, le plus important n'était plus sa position sociale, le plus important n'était plus le regard des autres, le plus important, c'était que sa fille soit sauvée. Il y a aujourd'hui énormément d'hommes et de femmes qui partent en enfer, tout simplement parce qu'ils ont peur du regard des autres, parce que leurs priorités sont fausses et mauvaises. Ce qu'ils cherchent, c'est le bien-être ici-bas. Ce qu'ils cherchent, c'est uniquement une situation sociale qui leur rende une vie agréable et surtout qui leur évite les détresses. Alors que les non-croyants soient comme ça, me semble finalement normal. Ce qui m'inquiète plus, puisque je m'adresse à l'Église ce matin, c'est de me rendre compte que les chrétiens eux-mêmes, finalement, recherchent sous d'autres formes ce que les païens cherchent, simplement sans se l'avouer. C'est-à-dire que nous avons fait du moyen de la foi un moyen d'accéder à ce que les païens ont. Nous avons fait de l'évangile souvent un évangile du bien-être. Et aujourd'hui, finalement, dans l'Église, il n'est presque plus possible de parler d'épreuves. Parce que si tu as vraiment la foi, tu n'as pas d'épreuves. J'aimerais te dire que l'Évangile ne dit pas cela. La vie de Jésus ne dit pas cela. La vie des apôtres ne dit pas cela. Et la vie de l'Église, qui était remplie du Saint-Esprit, ne dit pas cela. Tu te trompes toi-même par de faux raisonnements. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, verset 4, il est dit « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. » Je suis parfois triste de me rendre compte que l'évangile de Jésus-Christ aujourd'hui n'a plus Christ au centre, mais l'homme au centre. Certaines rencontres et certaines prédications me font plus penser à des rencontres de coaching qu'à l'annonce de l'évangile. C'est les 7 clés pour que tu prospères. C'est les 7 ou les 5 clés pour que tu aies du succès. C'est toujours tout autour de toi. Mais j'aimerais vous rappeler que l'évangile, ce n'est pas autour de nous. L'évangile, c'est autour de lui. Et son but, ce n'est pas de nous replier sur nous-mêmes. Son but, c'est de nous amener à lui. Parce que lui seul peut nous transformer. Lui seul peut rendre cette foi profonde. Ce matin, la détresse va nous sauver en nous ramenant aux vraies priorités. Jaïrus viendra là et nous a dit, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment en disant, ma fillette est à toute extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée. Peu importe ce qu'on pense de moi, peu importe ce qu'on dira, peu importe la suite des événements, mais je viens à toi et je te supplie et je me jette à tes pieds. Vous savez, pour un juif, se jeter aux pieds d'un homme, c'était grave. Parce que c'était reconnaître une force, une forme de divinité en lui. On ne se prosternait devant personne d'autre, si ce n'est devant l'Éternel. Cet homme va changer ses priorités. Ce qui a bouleversé notre vie en tant que famille, eh bien, c'est une détresse. C'est une détresse. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à une détresse. Il a fallu que ma mère soit entre la vie et la mort pour que soudain mon père se réveille. Ils avaient leur commerce, ils avaient de l'argent, tout allait bien. Ils n'avaient pas de soucis majeurs. Ils avaient 2 filles, tout roulait pour eux. En fait, ils auraient pu dire, comme certains chrétiens peuvent le dire, « Je suis béni ». Mais en pensant être bénis, ils étaient en dehors de la volonté de Dieu. Ils allaient à l'église le dimanche. Ils écoutaient les prédications, plus ou moins. Mon père me disait toujours, pendant qu'il prêchait, moi je faisais le bilan de ma semaine. En sortant, je savais ce que j'ai perdu, ce que j'ai gagné, combien il fallait que j'investisse. Mais ça, c'était ce bon chrétien qu'il pensait être, en disant, mais finalement, je suis béni, et viendra cette détresse où il n'y a plus d'espérance pour ma mère. Et c'est dans cette détresse que finalement, ils ont traversé les frontières de leur milieu religieux. Nous venons d'un milieu très conservateur, et dans ce milieu conservateur, il était inimaginable qu'on impose les mains. Mon grand-père, qui était prédicateur dans ce milieu-là, disait à mon père, c'est du magnétisme, ça vient d'en bas. D'autres lui disaient, c'est un feu de paille. Ma mère a maintenant 90 ans, elle était malade à 29 ans, ça dure longtemps la paille divine. Je vous souhaite, moi, de faire du feu avec la paille divine, vous n'aurez plus de problème avec le gaz russe. Mais c'est une détresse. Moi-même, lorsque je me suis retrouvé là, il y a 2 ans, à l'hôpital, avec un médecin qui se trouvait en face de moi et qui me disait, Monsieur Peter Schmidt, on ne peut pas vous aider. On n'a aucun moyen, on n'a aucun médicament, on ne sait pas comment faire. Alors que je m'éteignais comme une petite bougie et que j'étais en train de partir, à ce moment-là, je peux vous dire que ma consolation ne s'est jamais trouvée dans le fait d'avoir une maison ou d'avoir une voiture ou d'avoir de grands biens. Ça valait 0,00. Ma seule consolation et mon espérance était de savoir je vais rencontrer Jésus. C'est de là que je tirais ma paix. Mais dans cette détresse-là, Dieu m'a également parlé. Dans cette détresse-là, Dieu m'a remise en question. Je crois que j'ai rarement autant pleuré que dans ce temps-là sur ma propre vie. Dieu m'a ramené à moi-même, Dieu m'a mis devant mon miroir. Et vous savez, lorsque vous êtes devant le miroir et que c'est Dieu qui commence à vous éclairer, les choses changent. Vous avez toujours le sentiment que vous êtes bien, bon, parfait. Mais quand sa lumière vient, c'est un peu comme ceux qui... Moi, je n'ai pas l'habitude d'en regarder, mais ça m'est quand même arrivé. Les films où vous avez des enquêtes policières. Vous avez déjà vu des films comme ceux-là ? Alors, l'enquêteur arrive sur une scène qui est une scène de crime, mais où il n'y a rien. Tout est rangé à la Suisse. Le napperon est blanc, tout est blanc, etc. Et soudain, ils sortent ce qu'ils appellent la lumière bleue. Et quand ils prennent la lumière bleue, les taches de sang apparaissent partout. L'invisible devient visible. Eh bien, quand la lumière de Dieu est venue sur moi alors que j'étais couché dans cet hôpital, je peux vous dire que l'invisible à mes yeux et à mes pensées est devenu visible. Ce que je n'aurais accepté que personne ne me dise encore une semaine avant, je pleurais sur ce que le Saint-Esprit était en train de me montrer. La détresse, eh bien, vous transforme, change vos priorités. Deuxième point, la détresse qui dure affermit votre foi. Nous prions et nous nous attendons souvent à ce que la réponse vienne rapidement. Mais voyez-vous, dans ce texte, et je pense que vous y avez certainement fait attention, nous avons un homme qui est dans une urgence absolue, puisque sa petite fille se mourait à l'âge de 12 ans. Et dans Matthieu 9, 18, il est même dit que ma fille est morte il y a un instant. Nous avons donc là un homme dans une urgence et une détresse absolue. Mais une détresse qui, eh bien, rend la situation urgente. Lorsqu'il y a une urgence dans nos pays, nous avons des services comme le SAMU, nous avons des ambulances, nous avons des gyrophares. Lorsque je suis venu ici vous visiter, une ambulance me dépassait sur l'autoroute parce qu'il y avait un accident. Et évidemment, vous aviez les sirènes. Il fallait que cela aille vite pour secourir rapidement la personne qui était en détresse. Moi, j'imagine cet homme, Jaïrus. Il tombe aux pieds du maître, il crie, il lui demande sa grâce, il le supplie, il est là à genoux. Jésus décide de l'accompagner. Et voilà qu'en chemin, soudain une femme vient et arrête le cortège. Est-ce que vous vous êtes déjà mis dans la tête de Jaïrus ? Est-ce que vous pouvez imaginer ce qu'il a pensé de cette dame ? Jésus s'arrête et dit « Quelqu'un m'a touché ». Je suis convaincu que Jaïrus devait se dire « Il y a plus urgent ». Même tes disciples disent « Tout le monde te touche, il y a plus urgent ». Quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Et je ne sais pas combien de temps ça a pris jusqu'à ce que cette femme ait révélé son identité. Connaissant mon épouse, ça a dû prendre du temps. Elle a dû calculer le pour, le contre, mais pendant tout ce temps, tout est figé. Juste des guillemets, je souhaiterais que quand les gens vous touchent, il se passe quelque chose. Ne criez pas tous en même temps. Il y en a qui me disent, oui, s'ils me touchent, ils attrapent le Covid. Je ne sais pas de ça que je parle. Mais je souhaiterais... Croyez-vous que ces choses sont encore possibles ? Vous savez, souvent, nous les lisons, nous pensons que c'est Jésus, mais vous, moi, est-ce que c'est possible que... Lorsqu'il est dit qu'une force sortit de lui, de quoi est-il question ? Du Saint-Esprit ? Ce n'est pas le seul endroit où une force sortait de Christ. Vous aurez différents textes où il est dit que ceux qui le touchaient étaient guéris. Une force sortait de lui et les guérissait. Mais, bien-aimé, cette même force habite en vous. Frère, vous avez cette même force en vous. Et vous, ce n'est plus le temple du Saint-Esprit, c'est une cathédrale, hein ? Ma sœur, vous, c'est une chapelle, hein ? Bien. Mais cette force est en vous. Il m'est arrivé quelque chose récemment. Et vous savez, c'est ça ce qui est beau et qui ne peut que nous amener à rendre gloire à Dieu. Parce que nous sommes conscients que les choses arrivent, mais sans même que nous en ayons conscience. Un homme est en train de se tourner vers Jésus. Il est suivi par l'un de nos pasteurs. Il n'est pas encore chrétien. Mais voilà qu'il écrit à mon ami Bertrand, lui disant « Ah Bertrand, dimanche je suis venu à l'église et à la fin j'ai rencontré le pasteur et il m'a embrassé. Et quand il m'a embrassé, eh bien un courant électrique m'a traversé. » Et il dit « Depuis, les douleurs que j'avais depuis longtemps à la poitrine ont disparu. » Frères et sœurs, c'est pas quelques-uns. Ne venez pas tous vous faire embrasser à la fin. Hein. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ce que je veux dire, c'est que celui qui habite en vous, celui qui est en vous, veut se manifester. Cependant, revenons à la problématique de notre ami. Il est là, le temps s'arrête pour lui. Et finalement, c'est l'épreuve qui se prolonge. Et quand l'épreuve se prolonge, nous nous posons la question, mais où est Dieu? Et pourquoi ça tarde? Pourtant, pendant ce temps-là, notre foi s'affermit. Parce que le même Jaïrus qui se dit pourquoi tout s'arrête, le même Jaïrus va entendre le témoignage de cette femme. Le même Jaïrus va entendre la guérison de cette femme. Sa propre foi va être fortifiée. Alors que tout s'arrête. Mes amis, parfois Dieu permet que tout s'arrête dans l'épreuve parce que pendant que l'épreuve a lieu, il est en train d'agir. Et ce qu'il est en train de faire, vous n'êtes pas en train de le voir ni de le mesurer. Mais ne vous rebellez pas. Rappelez-vous que nous disons tous avec joie toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors ça, nous aimons surtout le dire aux autres. On ne s'applique pas forcément à soi-même. J'ai eu des amis qui étaient remplis de foi et quand quelqu'un était malade, ils disaient « Mais non, va pas chez le médecin, je vais prier, prends pas de médicaments. » Le jour où ils étaient malades, tout ce qu'ils trouvaient à manger, ils le mangeaient. Mais quand même, c'est toujours facile de dire aux autres ce que nous-mêmes, finalement, n'avons jamais vécu parce que jamais éprouvé. Je me souviendrai le restant de ma vie de ce qui s'est passé lorsque nous avons agrandi l'église. Je crois, Hans, tu étais déjà là. Hein, nous avons agrandi l'église pour plusieurs millions d'euros. Et puis, évidemment, j'étais très enthousiaste. L'église était derrière. Et voilà que nous avons commencé les travaux. Nous avions déjà investi 500 000 ou 800 000 euros, rien que dans les fondations, les murs, etc. Et nous avions un projet qui avait un plancher collaborant bois-béton. C'est un système qui avait été utilisé dans toute l'Europe et qui avait l'homologation européenne. Il avait même été mis en œuvre à Bâle, à 25 km de chez nous. Et voilà que lors de la construction, vous avez régulièrement des organismes de sécurité qui passent et qui viennent voir si tout se fait dans les règles de l'art. Et soudain, lors d'une de ces réunions, l'inspecteur qui passe me dit lors de la réunion avec les ingénieurs, avec nous autres maîtres d'œuvre, etc., nous dit le plancher collaborant bois-béton n'a pas d'homologation française. J'ai dit, attendez, il a une homologation européenne. Autant que je sache, on n'est pas en Asie. Il dit, oui, mais il n'a pas d'homologation française. J'arrête les travaux. Vous savez, quand vous avez un chantier de plusieurs millions qui est en cours et qu'on vous dit, j'arrête les travaux, et là, intérieurement, je disais, Seigneur, moi j'ai la foi. C'est toi qui m'as dit de construire. J'ai la foi. Et j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, merci parce que c'est toi qui vas nous libérer de cette épreuve. Change le cœur de cet inspecteur. Et je priais. Et puis un mois a passé, deux mois ont passé, et voilà que le chef d'entreprise qui avait construit là, qui avait monté une grue, nous dit, écoutez, messieurs, il va falloir prendre une décision parce qu'il va falloir démonter la grue. Mais si jamais les travaux reprennent, il faudra la remonter. Cependant, le démontage de la grue à lui seul coûte 18 000 euros. Et moi, je disais, Seigneur, j'ai la foi. Cette grue ne sera pas démontée. Et je le proclamais, cette grue ne sera pas démontée. Et un jour, ils ont démonté la grue. Je dis, Seigneur, merci, parce que tu ne vas pas permettre que ça dure. Parce qu'en même temps, vous savez, on est pasteur, on est quand même aussi gérant, administrateur. Et je me disais, mais si les travaux s'arrêtent, les frères et sœurs de l'Église ne vont plus avoir à cœur de soutenir un chantier arrêté. Et malheureusement, les travaux n'ont pas repris. 6 mois, 1 an. Écoutez, c'est simple. Les ferrailles sortaient des murs et rouillaient. La mauvaise herbe poussait, vous vous en souvenez ? C'était, pour moi, c'était comme un champ de bataille qui avait été déserté. Ça me faisait tellement mal au cœur que je ne me garais plus devant l'église, mais derrière l'église pour pas voir. Ça changeait rien à la situation, hein ? C'était juste psychologique. J'étais un peu dans la politique de l'autruche. Tu mets la tête dans le sol, tu vois plus rien. Mais ça ne change rien. Ça a duré 2 ans. Les réunions de chantier que nous faisions, on les a arrêtées puisque l'un des ingénieurs qui était chargé également du projet nous dira, écoutez, au stade où on en est, probablement qu'il faudra réfléchir, peut-être penser à tout arracher. Et là, vous avez toutes sortes de pensées qui viennent. Mais Seigneur, pourtant c'est toi qui me l'as dit. Et Seigneur, qu'est-ce que les frères et sœurs de l'Église vont penser ? Et puis ça a duré 3 ans. 3 ans. Et soudain, au bout de 3 ans, de nos frères y ont travaillé, je dois le dire également, et le Seigneur les a bénis dans ce qu'ils ont fait. Au bout de 3 ans, ils nous ont donné à titre exceptionnel, uniquement pour ce chantier-là, une autorisation. C'est la seule dans tout le pays. Et les travaux ont repris. Mais quand les travaux ont repris, écoutez bien, le peuple de Dieu, lui, pendant ce temps, a été admirable. Et je dois dire que les enfants de Dieu de l'Église avaient une foi inébranlable. Parce que rien ne bougeait et eux continuaient à donner pour soutenir la construction comme si la construction avait continué. Lorsque nous avons recommencé les travaux, nous avions la somme globale sans besoin d'emprunt pour finir tout le projet. Mais l'épreuve a duré. Et aujourd'hui, je dois dire que ce temps d'épreuve a fortifié ma foi. Et quand les choses ne se passent pas comme je le pense ou comme je l'espère, je sais qu'il est au contrôle. Je sais qu'il est au contrôle. Et j'ai eu besoin de le savoir lorsqu'il y a 2 ans, nous avons été frappés par le Covid. Je vous assure, ça a été essentiel de savoir, Seigneur, tu es au contrôle. Cependant, et permettez-moi d'arriver au 3e point, ça va, j'ai encore un peu de temps ? C'est un peu dommage, vous écoutez lentement, on perd du temps. Tellement plus rapide lorsqu'on écoute plus vite. Je crois que c'est l'épouse du pasteur qui nous ralentit, je vois, jusqu'à ce qu'elle... C'est peut-être, et c'est la partie centrale de mon message là, peut-être la partie la plus difficile à comprendre. La détresse engendre une foi purifiée. Finalement, l'épreuve permet à Dieu de révéler ce qu'il y a réellement dans nos cœurs. Pourquoi suis-je enfant de Dieu? Pourquoi suis-je assis ici? Quelle est ma motivation? Quel est le fond? Lorsque vous lisez dans le livre des Chroniques, au chapitre 32, verset 31, vous avez le roi Ézéchias, et Dieu va se retirer pour éprouver ce qu'il y a en lui. Lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès d'Ézéchias pour s'informer sur le miracle qui avait eu lieu, Dieu l'abandonna afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. En d'autres termes, sans épreuve, pas de preuve. Tu peux te le noter, sans épreuve, pas de preuve. Christophe, tu peux venir nous annoncer à tous que tu fais le 100 mètres en 5 secondes. C'est sur la piste qu'on vérifiera ce que tu fais en réalité. Je dois dire sincèrement que j'ai des doutes. Non pas que je n'ai pas la foi, mais sincèrement, j'ai quand même quelques doutes. Ah non, moi je ne prétends pas les faire en 5 secondes. À la rigueur, en 5 minutes, mais pas en 5 secondes. Nous sommes aujourd'hui dans une approche de l'Évangile où nous partons du principe que si tu fais tout ce que Dieu te demande de faire, à l'issue, tu es un homme béni. Sous-entendu que béni signifie jamais de détresse, jamais de problème, la vie devient un long fleuve tranquille. Ma question, est-ce que l'apôtre Paul était un homme béni, oui ou non? Sa vie fut-elle un long fleuve tranquille? Loin de là. Loin de là, Job. Job sera un homme béni. Il fera tout ce qui était juste devant Dieu. Il était même préventif. C'est-à-dire qu'il offrait des sacrifices à l'Éternel avant, au cas où ses fils pourraient pécher. Moi, j'ai un de mes amis, un des pasteurs qui est avec nous, qui était catholique auparavant, et il nous a dit un jour, moi, je me confessais avant d'avoir péché, comme ça, si jamais je péchais, au moins, c'était déjà confessé. Donc c'était quelqu'un de très préventif. Eh bien, c'est exactement le cas de Job. Il était dans la prévention. Et Dieu va parler de lui à Satan. As-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu son intégrité? Écoutez bien la réponse de Satan. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? La détresse dans laquelle Job va entrer est une détresse qui n'aura pas de réponse. Pouvez-vous entendre ça? Dieu peut permettre des détresses au bout desquelles tu n'as pas forcément toujours une réponse satisfaisante. Bien sûr que nous connaissons la fin. Mais il n'empêche que Job va perdre, au-delà des troupeaux, de sa richesse et de sa santé, il va perdre 10 enfants. 10. Ces 10 enfants, il ne les retrouvera jamais. Ces 10 enfants, il les a aimés. Ces 10 enfants avaient un prénom. Ces 10 enfants ont été des membres de sa famille. Et quand même Dieu lui multipliera les choses après coup, et quand même Dieu lui redonnera des enfants, ces enfants-là ne sont plus là. Voilà une détresse dans laquelle il n'y a pas eu une réponse selon l'ordre que nous imaginons. Mais au travers de cette épreuve, la foi de Job va l'emmener à réellement connaître Dieu. Non plus le Dieu de la bénédiction, non plus la bénédiction de Dieu, mais le Dieu de la bénédiction. Il dira cette phrase que vous connaissez tous, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. » Aujourd'hui, lorsque l'on prêche comme ça, on devient impopulaire. On n'a plus le droit de laisser sous-entendre à quelqu'un qu'il pourrait passer dans des épreuves et que dans cette épreuve, il pourrait perdre des êtres chers sans pour autant qu'il ait toujours une explication comme celle qu'il entend. Il est difficile de dire à quelqu'un que même si tu pries et tu jeûnes, tu n'auras pas forcément ce que tu demandes. Aujourd'hui, nous sommes face à une théologie du confort et de la prospérité. Je ne parle pas de cette espérance qu'ont des peuples pauvres Puisque nous, quand nous parlons de la prospérité, nous en parlons avec une certaine arrogance quand même, parce que nous oublions que nous sommes riches. Rien que d'être là habillé comme vous l'êtes, de rentrer à la maison, de manger normalement, vous êtes très riche. Il y a des pays où on rentre à la maison, on ne sait pas si on va manger. Donc parfois nous parlons de la prospérité avec une certaine arrogance. Mais certains l'ont amené à finalement devenir un idéal charnel. C'est-à-dire que rien ne peut m'arriver. Cette doctrine développe une foi dans laquelle Dieu ne peut que dire oui et toujours oui. Et si jamais il ne répond pas, on va soupçonner la qualité de ta foi. Peut-être que tu es incrédule. J'ai l'autre jour une dame qui m'a écrit et qui me disait combien elle avait souffert dans le milieu où elle était parce qu'elle était malade depuis 6 ans. Pourtant, elle priait, mais tout le monde lui disait qu'elle manque de foi ou on la soupçonnait d'avoir péché. C'est violent pour celui qui est dans l'épreuve. Et elle me disait combien ce message l'avait libérée. Combien elle avait réalisé qu'on pouvait aimer Dieu du fond du cœur, être sans péché et pourtant passer par l'épreuve. Et parfois une épreuve qui dure et une épreuve qui ne trouve pas toujours sa solution immédiatement. J'avais un de mes amis que j'ai aimé. Alors évidemment, il avait un ministère itinérant, donc il n'était pas confronté à la même chose que moi. Mais quand je l'entendais prêcher, à la fin de la prédication, il ne pouvait qu'y avoir une issue positive. Au sens humain du terme. Parce que qu'appelons-nous positif ou pas ? Qui est riche et qui ne l'est pas ? Le riche était-il riche aux yeux des hommes ? Oui. Lazare était-il riche aux yeux des hommes ? Non. Qui avait du succès aux yeux de Dieu ? Lazare. Ne vous y trompez pas. Ne mettez pas le curseur là où il ne doit pas être. Ce qui va déterminer eh bien, la qualité de votre foi, c'est d'abord votre relation et votre attachement à Dieu. Et finalement, c'est la seule chose qui doit déterminer les choses. Cet ami-là, quand je lui disais, mais un jour après une prédication, on était ensemble à la maison, on mangeait ensemble, j'ai dit, mais je ne dis pas de nom ni de prénom, d'ailleurs maintenant, il est déjà parti près du Seigneur, jeune encore. Je disais, mais même dans ton ministère, il y a des gens qui ne sont pas guéris. J'ai vu des centaines de guérisons, mais j'ai de mes amis qui sont morts. Et je lui dis, mais dans ton ministère, tu as aussi des... Qu'est-ce que tu dis lorsque tu prêches ? Et là, il me donne une réponse qui est restée pour moi un mystère. Il me dit, je n'en parle pas pour ne pas décourager la foi des gens. Mais de quelle foi parlons-nous ? De quelle foi parlons-nous ? C'est quoi finalement la foi ? Votre foi ne doit pas reposer sur ce que vous allez obtenir, sinon, et c'est le problème en Occident, partout maintenant, l'Église de Jésus-Christ est devenue très fragile. Parce qu'elle a une foi qui est uniquement et qui repose uniquement sur, entre guillemets, le résultat. Mais la foi, ce n'est pas votre capacité de croire que Dieu peut vous guérir. La foi, c'est votre capacité de lui faire confiance, quoi qu'il fasse. Ce n'est absolument pas la même chose. La foi, c'est votre capacité de lui faire confiance. Quelles que soient les circonstances, même quand ces dernières sont difficiles, quelle qu'elle soit, mes amis, ce matin, l'apôtre Paul, avec tout ce qu'il a vécu à la fin de sa vie, dira « J'ai combattu le bon combat » et dira « J'ai gardé la foi ». Il n'avait pas une foi, pardonnez-moi, bling bling. Il n'avait pas une foi faite de petits papillons. Il n'avait pas une foi qui dépendait juste des miracles que Dieu pouvait faire ou ne pas faire. Sa foi reposait sur Dieu et sur Dieu seul. Les signes et les miracles ne sont pas là pour que ta foi devienne plus grande, ils sont juste là pour confirmer la parole. L'étymologie du terme « signe » signifie « signature », c'est-à-dire que Dieu vient signer de manière surnaturelle eh bien, ce que tu viens de prêcher en son nom. Mais le but, c'est d'amener celui qui ne le connaît pas à le connaître et à le rencontrer. Jésus n'a jamais dit que l'imposition des mains aux malades deviendrait une thérapie. C'est un signe. C'est pourquoi l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens et il leur dit « Éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Dans quelle sorte de foi êtes-vous ? De quelle foi parlons-nous ? À quoi êtes-vous attachés ? Et si demain on vous retire tout ?» Alors on parle toujours de Hébreux 11, les héros de la foi, mais Hébreux 11 est précédé de Hébreux 10, où justement il y avait des hommes à qui on avait tout retiré et qui tout d'un coup avaient un combat. Et l'Épître dit, nous ne nous sommes pas de ceux qui se retirent. Bien-aimé ce matin, si je vous le dis, c'est par expérience. Certains ont fait, pardonnez-moi, mais de la foi, un principe pour proclamer les proclamations qu'eux ont décidé de proclamer afin qu'elles arrivent. Et ils utilisent des versets en dehors du contexte. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais si vous citez le verset en dehors de son contexte, vous pouvez lui faire dire ce que vous voulez. Tout à l'heure, au début de la réunion, Christophe disait qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est un chrétien qui, un jour, est en face de quelqu'un qui l'a giflé, et lui a dit, bien, c'est bien, il a retroussé ses manches, il dit, la Bible dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et il l'a rossé. Vous voyez, suivant le contexte où vous utilisez le verset, moi je me souviens de mes enfants quand ils étaient, Sarah, elle avait 5 ans et Jonathan 4 ans. Et Sarah avait fait pour la première fois de sa vie des petits gâteaux à l'école maternelle. Et elle les avait ramenés pour que je puisse les goûter. Et évidemment, son gourmand de frère, il y a 11 mois de différence. Ils ont juste 11 mois de différence. Voulait lui prendre les petits gâteaux. Et elle lui a dit non. Alors, on est arrivé à table pour le repas. Et là, je vois Sarah qui me dit, papa, je te fais des petits gâteaux. Et je vois Jonathan qui fait la tête. Et je dis, mais Jonathan, ça ne va pas. Et là, Sarah, elle dit, écoute, papa, il voulait manger les petits gâteaux. Et j'ai dit, c'est pour toi, parce que moi je t'aime. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Et là, l'autre, il entend ça, il lève la tête, il dit, oui, mais Jésus aussi a dit, donnez-vous les petits gâteaux les uns aux autres. Bien-aimé, aujourd'hui, pardonnez-moi, mais je vais vous le dire comme je le pense. Parfois, on utilise la Bible comme un livre incantatoire. Vous avez aujourd'hui des livres dont le titre est « Une confession positive chaque matin ». Puis on cite des versets et on les proclame et on vous dit de les proclamer. Et ce que tu crois, c'est ce qui arrive. Et ceux qui construisent leur foi de cette manière-là, quand les choses n'arrivent pas, leur foi dégringole parce qu'elle n'est qu'un château de cartes. Je le disais dernièrement, j'étais à Kinshasa et je disais à des amis, je disais, mes amis, vous n'êtes pas dans la foi, vous êtes dans la magie. Quand vous vivez en dehors de la communion avec Dieu et que vous voyez le pasteur en disant, pasteur, bénis-moi, bénis-moi, ça, c'est de la magie. Parce que vous pensez que la main du pasteur qui va vous bénir va changer votre situation alors que vous ne faites pas ce que Dieu vous appelle à faire. Mais on est dans l'incantation aujourd'hui. Mes amis, la puissance de la parole de Dieu prend place quand la communion avec Dieu est une communion véritable. Vous n'aurez jamais plus d'autorité que ce que vous êtes réellement dans le secret avec Dieu. Tout le reste ressemble très souvent à un théâtre évangélique dans lequel beaucoup se fourvoient. Et il est de ma responsabilité de nous ramener à l'Écriture et de nous rappeler que l'épreuve, eh bien, est utilisée par Dieu pour nous rapprocher de lui et qu'elle peut parfois durer. Permettez-moi juste de vous partager un peu mon cœur, mais lors de cette terrible pandémie dans laquelle nous avons tout d'un coup été propulsés sur l'avant de la scène alors que nous n'avions rien demandé à personne, si ce n'est que nous voulions agir en citoyens honnêtes en disant « il se passe quelque chose d'anormal ». Alors que j'étais à l'hôpital, que moi-même personne ne savait si j'allais passer le cap ou pas, quand je pouvais ouvrir mon téléphone avec les SMS, quand j'arrivais à le faire, apparaissaient les noms de mes frères qui mouraient. Gérard est décédé. André est décédé. Des amis qui m'ont accompagné depuis que j'étais jeune dans le ministère, depuis l'âge de 22 ans. Des hommes avec qui j'ai travaillé. Et je pleurais. Et je disais au Dieu, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi tu permets ça ? Pourquoi mes amis ? Et à la fin, ce n'était pas un ou deux. À la fin, ce sont 32 personnes qui sont décédées. Vous voulez savoir ce que sont 32 personnes ? Ça fait quasiment un groupe comme celui-là qui disparaît. En quelques semaines, avec un rouleau médiatique qui ne nous épargnait rien, une violence sur les réseaux sociaux. Certains écrivaient pourvu qu'ils crèvent à l'hôpital. On nous menaçait de nous descendre à la Kalachnikov, d'incendier l'église. C'est à cela que nous étions confrontés. Et je disais, Seigneur, mais pourquoi ? Pourquoi nous ? Pourquoi devions-nous tout d'un coup devenir finalement une source d'information ? Mais nous avons fait le bilan des articles. Après, il y a eu plus de 550 articles qui ont paru dans des langues dont moi je ne comprends même pas l'écriture. Et puis, quelque temps plus tard, voilà que je suis assis, que je m'étais remis, je suis assis dans l'église un mardi soir et soudain, on m'annonce encore une fois le décès d'un de mes amis, que toi tu as bien connu, Roger Gresslin. Et je disais, Seigneur, tu ne vas pas me les enlever tous. Et dans la même semaine, deux jours plus tard, le jeudi, c'est ma fille, Johanna, qui était à Lyon, qui était enceinte, qui était à la fin du cinquième mois, qui m'appelle, papa, papa, elle pleurait, je perds du sang. Et elle perd son bébé. Et je me suis retrouvé avec la famille à la morgue. J'ai porté cette petite fille dans mes bras. J'étais brisé. Je disais, Dieu, pourquoi ? Qu'avons-nous fait de mal ? Pourquoi ces 32 frères et sœurs sont morts ? Quand je voyais ma fille et mon gendre à genoux devant le cercueil, en chantant, « Oui, prends tout, Seigneur. » La seule réponse a été, « Est-ce que tu m'aimes pour ce que tu reçois ou pour qui je suis ?» Et j'ai dit, « Seigneur, tu peux tout m'enlever. » Je continuerai à t'aimer. Tu peux tout m'ôter. Je continuerai à te servir. Tu es Dieu. J'ai reconnu que tu es Dieu. Et mon avenir, ce n'est pas la terre. Mon avenir, c'est le ciel. Un jour, je serai avec toi. Ça a été un moment tellement difficile. Vous ne pouvez pas mesurer. J'avais l'impression qu'on m'arrache le cœur. Lorsque j'étais devant cette tombe avec cette petite fille dans le cercueil, ce petit cercueil blanc, après tout ce que nous venions de passer, j'avais le sentiment que ça n'arrête plus. Et là, Dieu me disait, je continuerai à être avec toi. Reste fidèle. Reste fidèle. Ne te laisse pas décourager. Regarde, fixe tes regards sur moi. Ta foi, elle se bâtit en moi, c'est moi le fondement de ta foi. Elle se bâtit sur moi. Rappelez-vous qu'à Christ, rien n'a été épargné. Il est dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Écoutez bien. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a pris bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Nous parlons du Fils de Dieu. Quel genre de foi vous anime? Sur quoi avez-vous bâti? J'entends souvent les chrétiens me dire « Ah frère, vous savez, quand la persécution viendra, eh bien, je me pose la question quand elle viendra. Qui restera debout? Qui fuira? » Si quelqu'un veut être mon disciple, dira Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus n'a jamais donné de garantie à ses disciples d'une vie facile. Et quand vous regardez la vie des apôtres, vous vous rendrez compte qu'elle est loin de certaines théologies. Très loin. Mais ces hommes ont combattu le bon combat. Ils pouvaient dire à la fin, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Est-ce que ça enlève de mon cœur la foi en la guérison divine? Loin de là. Au contraire, et je le disais hier à Christophe, je vois de plus en plus d'interventions miraculeuses de la part du Seigneur en Europe. Et je m'en réjouis, mais ma foi ne repose pas sur ça, elle repose sur lui. Et que ces choses aient lieu ou pas, qu'il m'enlève des êtres chers ou pas, je continuerai à l'aimer. Éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, parce que l'épreuve, est-ce qu'il va purifier votre foi? L'épreuve, c'est la pression des mains du potier sur l'argile. C'est cette pression qu'il exerce en fonction du vase qu'il désire. Mais l'épreuve qui dure, c'est ce four dans lequel l'argile va devenir suffisamment dure pour qu'un vase d'honneur puisse en sortir. Ne refusez pas le four. Ne pensez pas que vous pouvez passer de l'argile au vase d'honneur. L'argile passe par le four. Que vous le vouliez ou non, le vase n'est utilisable que s'il a passé par le four. Le vase ne sera d'autant plus qu'un vase d'honneur parce qu'il a passé par le four. Pouvons-nous fermer nos yeux? J'ai un dernier point, mais je voudrais m'arrêter là. Et le temps est passé. Mais pendant que mon frère vient au clavier, alors que nous sommes tous face à nous-mêmes et face à Dieu, n'est-il pas celui qui éprouve les cœurs. Dans Jérémie, il est dit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est moi l'Éternel qui éprouve le cœur et qui sonde les reins, afin de rendre à chacun selon le fruit de ses œuvres et de ses voies. Quel est le résultat du fruit de votre foi? Mon frère, ma sœur, où en es-tu ce matin? Ta foi sera éprouvée. La paille, le chaume, le bois brûlera. Mais tout ce qui est précieux n'en sortira que plus purifié. L'or qui passe par le creuset n'en sort jamais appauvri, mais purifié. L'or qui entre dans le creuset a moins de valeur que celui qui sort du creuset. J'ai versé dans ces deux dernières années, plus de larmes que tout le restant de ma vie. J'ai eu des moments où je n'avais plus que la douleur, mais les larmes ne coulaient plus. C'est comme si la source de ces dernières était tarie. Et pourtant, je peux vous le dire et vous le témoigner, il était là. Jamais il ne m'a abandonné. Dans sa grâce, il n'a jamais permis que je remette en question qui il est. Mais il m'a rapproché de lui comme jamais. Je pense que si je faisais encore 80 ans de séminaires de toutes sortes, aucun d'entre eux ne remplacerait ce qui s'est passé dans cette période-là. Ma prière, c'est que vous vous approchiez de lui. Ma prière, c'est que vous le connaissiez pour qui il est. Ma prière, c'est que si Satan devait parler de vous, il ne puisse pas dire ce qu'il n'y a pas finalement un intérêt pour qu'il te craigne comme cela. Ma prière, c'est que votre foi soit solide. Nous ne savons pas ce qui est devant nous. Nous sommes dans des temps qui sont des temps mauvais. Bien sûr, il y a eu des temps mauvais dans le passé. Quand j'écoutais mon père qui a vécu ces périodes de guerre, il y a eu des temps mauvais. J'enterrais un ami lundi qui était juif, qui a connu ces temps mauvais, qui a dû fuir. Mais aujourd'hui, nous sommes dans des temps mauvais. Des temps mauvais dans lesquels cette guerre spirituelle est de plus en plus intense, allant jusqu'à remettre en question l'identité même de nos fils et de nos filles, allant jusqu'à prôner toutes sortes de valeurs qui sont une honte devant Dieu, convainquant même certaines églises d'y céder, menaçant ceux qui se dressent contre. Serons-nous trouvés debout? Ou finalement viendrons-nous et dirons-nous, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, guéri des malades, et entendrons-nous, je ne vous ai jamais connu? Connu. Dieu veut te connaître dans l'intimité. Dieu veut te connaître pour qui il est. Tu es à lui. Il t'appelle à ne pas chercher d'abord sa bénédiction, mais il te dit, cherche d'abord le royaume de Dieu. Et sa justice et le reste. Le reste n'en occupe pas, c'est lui qui s'en occupe. Ce matin, je voudrais, pour ceux qui savent que Dieu leur a parlé, je voudrais prier pour vous. Si vous savez que Dieu s'est adressé à vous au fond de votre cœur et qu'il vous faut aller plus loin, qu'il vous faut approfondir votre foi, je vais vous demander de vous lever simplement à votre place et nous prierons. Ce n'est pas devant moi, mais c'est devant lui. Vous lever, c'est aussi renoncer. Vous lever, c'est aussi dire, Seigneur, change mon cœur. La prière de David était, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. David avait mesuré sa fragilité. David avait chuté. Il savait maintenant, Dieu seul peut me donner ce cœur Dieu seul peut changer ma manière de penser. Tu es là, Seigneur. Et je prie pour tous ces amis qui sont debout, non pas devant moi, mais devant toi. Seigneur, viens purifier leur foi. Viens leur permettre de savoir au fond d'eux-mêmes qu'ils sont dans cette foi qui les ancre solidement en toi. Cette foi qui pour eux est déjà comme une ancre jetée dans le ciel. Cette foi qui les attache déjà de manière évidente et vivante au royaume de Dieu. Seigneur, tu vois tous ceux parmi eux qui passent par des épreuves. Il y a un homme, vous êtes là, vous avez une épreuve physique, vous traversez un moment extrêmement difficile avec un cancer des intestins. Et vous êtes venu disant, oh Dieu, aide-moi. Et le Seigneur vous dit, je suis avec toi. Et dans les moments où tu te sens seul, je t'accompagne. Ne crains pas, je vais te secourir. Mais ne désespère pas. Regarde à moi. Je suis plus grand que ta maladie. Ce que je veux, c'est ton cœur. Père, je te loue pour mes bien-aimés. Merci parce que c'est toi qui as permis la détresse de Jaïrus qui va changer sa vie. Et là, mes bien-aimés ce matin qui sont debout de réviser leurs priorités. Où sont-elles? Quelle est la priorité? Permets-leur, lorsque l'épreuve dure, de se souvenir que, même si elle dure, pendant ce temps, leur foi se fortifie comme celle de Jaïrus a pu se fortifier en voyant la guérison de cette femme. Mais permets-leur aussi de se souvenir que l'épreuve, eh bien, les purifiera comme l'or. Les amènera dans une communion qu'ils n'ont jamais connue avec toi. Une relation, une intimité. Père, je te bénis de tout cœur. Et je te remercie également pour tous ceux que tu secours. Merci infiniment. Tu es là, Seigneur, et nous nous attendons à toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. L'Esprit de Dieu continue à agir dans les cœurs. Il y a une action de l'Esprit au fond du cœur de bien des personnes ce matin. Et pour certains, c'est comme si des écailles étaient tombées de vos yeux et que soudain vous avez compris quelque chose que vous n'aviez jamais saisi jusqu'à présent. C'est une voie nouvelle qui s'ouvre pour vous. Mais j'aimerais vous dire que la finalité est glorieuse. La finalité, c'est cette présence du Seigneur. La finalité, c'est cette paix. La finalité, c'est cette certitude. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Père, je veux les bénir et je veux bénir cette assemblée. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Nous t'adorons, nous t'aimons de tout notre cœur. Tu es là, tu es présent ce matin. Et tu es au milieu de nous. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 7, alors que nous sommes debout, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, écoutez, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et au verset 26, à celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Alors s'il a dit à Jaïrus, ne crains pas, crois seulement mon frère, ma sœur, j'aimerais vous laisser repartir en disant, ne crains pas, crois seulement. Fais-lui confiance. Je lui ai fait confiance quand mes amis sont morts. Je lui ai fait confiance quand ma petite fille est décédée. Je lui ai fait confiance quand j'ai vu mes enfants abattus. Je lui ai fait confiance. Et il m'a apporté la consolation. Je lui fais confiance et je sais qu'un jour mes yeux le verront. Je souhaite de tout cœur que votre foi soit inébranlable, bâtie sur le rocher des siècles. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Pouvons-nous nous lever ensemble ?